Voilà, et bien sûr, on a en vue les journées du patrimoine, ça avance très très vite. Donc cette émission s'inscrit un peu en amont de cet événement que tout le monde attend, où des lieux vont être mis à disposition, enfin tout au moins ouverts au public. On va parler de tout cela avec M. Stéphane Ledez, qui est délégué régional Hauts-de-France de la Fondation du patrimoine. Bonjour M. Ledez.
Bonjour à vous.
Alors, heureux de vous accueillir, parce que, évidemment, le patrimoine, beaucoup de gens adorent leur patrimoine. Dans notre région, quand même, il y a des endroits très intéressants qui ont été préservés, d'autres qui ont tendance à prendre de l'âge et à s'abîmer, que les propriétaires soient public ou privé, votre fondation s'intéresse à tous ces bâtiments qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se préserver, voire même redémarrer sous d'autres bases.
Oui, absolument. Alors la Fondation du patrimoine, en deux mots, déjà c'est une année importante pour nous puisque nous fêtons les 30 ans de la Fondation qui a été créée en 1996, reconnue d'utilité publique en 1997. À la base, la Fondation est créée pour travailler sur le patrimoine remarquable non classé. Mais au fil des ans, bien évidemment, on va aussi s'intéresser au patrimoine classé. Et la particularité, c'est que bien sûr, on s'intéresse au patrimoine bâti, mais aussi au patrimoine flottant, roulant, patrimoine naturel et la biodiversité. Donc ce sont tous les patrimoines que nous cherchons à accompagner, à aider. Et à titre de jalon, l'année dernière, c'est à peu près 150 millions d'euros qu'on a mobilisés sur le territoire national pour accompagner les projets patrimoniaux. Et en Hauts-de-France, 4,5 millions d'euros.
Comment se fait le choix de ces sites à épauler, on va dire ? Est-ce que vous avez un comité ? Ou est-ce que ce sont les sites qui font appel à vous ?
Alors, effectivement, la Fondation, c'est d'abord une boîte à outils assez large. Et on va parler tout à l'heure des sites retenus au titre de la mission Berne et financés via le loto du patrimoine. C'est une partie des fonds qui sont mobilisés, puisque c'est à peu près 25-30% des ressources de la Fondation. Ben, le reste, ça va être les collectes que nous montons pour accompagner les rénovations de sites de projets. Ça va être les grands mécènes nationaux. Ça va être aussi quelque chose qui est assez peu connu, c'est les successions en déshérence où on touche une partie. Hein, ça a été une décision à l'époque, je crois, du Premier ministre Raffarin, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est à peu près une dizaine de millions d'euros par an qui sont reversés assez singulièrement par l'administration fiscale pour qu'on puisse aider les paramètres. Alors, s'agissant en fait des sites qui ont été décernés, hein, qui ont été, valorisés par la mission Berne, hein, on est à la 9e édition. Donc il y a deux vagues. Il y a une première vague qui va déterminer le site de référence de la région. Et il y a une deuxième vague, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la vague des sites départementaux. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Je dirais qu'il y a une plateforme en ligne où les porteurs de projets, qu'ils soient publics, privés, peuvent présenter leurs projets. Alors évidemment, ils sont très souvent épaulés par nos équipes, puisque sur les Hauts-de-France, par exemple, on a plus de 70 bénévoles, on a 3 chargés de mission, et qui vont aider, dialoguer avec les porteurs de projets, puisque ça peut être public, ça peut être une collectivité locale, une association, ça peut être un porteur privé, et qui vont présenter leur dossier. Alors, on a plusieurs critères hein, qui vont servir, je dirais, au comité, un comité des sages élargi, où il y aura Stéphane Berne, la mission Berne, le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine, plusieurs acteurs qui vont amener un regard croisé. On va regarder d'abord l'intérêt patrimonial, évidemment, du projet. On va regarder la maturité du projet. Est-ce que le projet est prêt, ou on est prêt à lancer des travaux, ou est-ce qu'on a éventuellement même commencé quelques travaux et il y a une phase qui arrive qui est importante. On va regarder l'état de péril, parce que c'est vraiment l'objet de ce challenge Mission Berne, c'est de travailler sur les sites en état de péril. Puis un sujet aussi qui est très intéressant, c'est de regarder comment le site s'intègre dans son environnement, comment est-ce qu'il va participer à la vie locale, il va être un point de référence de la vie locale. Donc, ces quatre critères vont permettre de déterminer, je dirais, une liste. Alors, on en présente quelques-uns. On discute aussi, bien évidemment, avec la DRAC hein, pour avoir un regard croisé sur les projets, puisque la DRAC est souvent financeuse, souvent accompagne aussi. On a les architectes des bâtiments en France qu'on va retrouver aussi pour aider les porteurs de projets, leur donner aussi un certain nombre de préconisations. Donc voilà un petit peu comment en fait peu à peu finalement les projets prennent corps et donc finalement cette année donc on a 5 projets, hein, un par département évidemment, voilà, qui ont été sélectionnés.
Voilà, on va en parler après, mais j'aimerais bien qu'on donne un petit bilan, on va dire, de ce qui a déjà été réalisé et ce qui est ouvert au public. Est-ce qu'il y a une obligation pour ceux qui ont été aidés d'ouvrir leur bâtiment lorsque c'est, par exemple, les journées du patrimoine?
Alors oui, très, très souvent. C'est-à-dire que souvent, quand on va aider notamment le patrimoine privé, la Fondation du patrimoine, qui peut décerner des labels, va demander à ce que le bâtiment, d'une façon ou d'une autre, soit ouvert, accessible au public ou visible du public s'il s'agit de restaurer une façade. Alors effectivement, si on fait un peu un bilan de puisque c'est la 9e édition hein, pour le loto du patrimoine, je dirais que on a levé avec le loto 210 millions d'euros dans les 9 dans les éditions précédentes, ce qui a permis d'aider à financer près de 1100 sites en France. Alors donc c'est quand même assez significatif. Et si je vous donnais quelques exemples hein, très concrets peut-être en Haute-France. Alors j'ai en tête, hein, il y en a plusieurs que je pourrais donner, mais notamment le fournil des Morins à Terouanne qui a été lauréat pour le Pas-de-Calais en 2021.
On peut donc peut-être expliquer, oui.
Voilà, alors c'était un fournil ancien et qui a été complètement restauré. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que après la restauration, où le fournil a eu 43 000 euros d'aide avec la mission Berne et la Fondation du patrimoine sur 150 000 euros, donc presque un tiers. Et ben, il y a eu aussi des bénévoles qui se sont mobilisés. Et bien, aujourd'hui, le fournil, et ben, il est en accès partagé. Et si on veut faire son pain à Terouanne, on peut accéder au fournil et l'utiliser. Donc ça, vous voyez, c'est tout à fait singulier, c'est tout à fait ouvert. Un autre exemple, c'est la chapelle des Templiers à Laon. Là, c'était un lauréat 2020 et là, il y a eu 65 000 euros qui ont été donnés au travers du loto du patrimoine 2020. Et la chapelle des Templiers, c'était le plus vieux monument médiéval de la ville de Laon. Donc, la restauration, où il y a eu effectivement la toiture notamment qui a été restaurée, eh bien, aujourd'hui, ça permet aussi d'être intégré dans un parcours culturel et historique à Laon.
Très bien. Donc voilà pour ces lieux qui sont ouverts au public et qu'on peut peut-être aller voir là le week-end dont on a parlé, qui arrive,
voilà.
Faut en profiter. Et puis on a tous ces projets qui vont pouvoir être aidés, donc il faut le temps de les réaliser. Après, une fois qu'on a l'argent, les équipes et les chefs de chantier, enfin j'imagine ça prend un certain temps. Comment on peut évaluer un peu le temps nécessaire à la restauration d'un bâtiment, temps du chantier?
Alors, on va souvent parler en mois et en années. Et très souvent, quand il y a un site important, on aura plusieurs tranches. Alors là, effectivement, parfois, on va accompagner. Alors, il y a le loto du patrimoine, mais on a d'autres éléments dans la boîte à outils. On va accompagner un site sur la durée avec la fondation. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui le manoir de Blois à Quédipre, hein, qui est un des lauréats de cette année pour le Nord, lui, il y aura une première tranche sur le bâtiment de vie. Ce manoir, il est intéressant parce que c'est finalement le manoir qui reste de sa typologie qui a été construit entre le 15e et le 16e siècle, typique des Flandres maritimes. Là, c'est un propriétaire privé, hein, Monsieur Nicolas Béret, qui s'occupe de ça. Souvent, les propriétaires privés, d'ailleurs, sont très, ils y passent leur week-end, ils y passent beaucoup de leurs économies. Donc, on a des gens qui sont très très engagés. Et il va d'abord commencer effectivement par l'aile, on va dire, dite d'habitation, sachant qu'il y a deux ailes, une aile est et ouest, avec deux tours, dont une qui est en fait une aile chapelle, puisque c'est une chapelle qui a été reconstruite en 1752 sur le site, qui sera rénovée plus tard. Donc, on a ici un projet qui devrait commencer sur le principal sur l'année 2027, mais qu'on va continuer sur 2028.
Il y aura des points d'étape pour...
Il y a toujours des points d'étape qui permettent de faire un point sur le chantier, voire d'engager de nouveaux processus d'aide, hein, parce que si je vous parle du lauréat, par exemple, du 60, c'est donc pour le département de l'Oise, eh bien, c'est l'église Saint-Nicolas d'Hercuit, hein, qui a été lauréate, qui a été, dont l'église originelle, ça a été commandé par le percepteur de Philippe Lebel. Donc, on voilà. voit qu'on on est, puis elle a été revue. Il y a un grand clocher qui a été créé au 17e et qui, au 18e, a utilisé comme premier télégraphe aérien dans l'expérimentation de Chappe. C'était en 1794. Eh bien, je dirais que cette église, elle avait déjà été aidée dans le cadre de l'appel à projet patrimoine religieux de la Fondation l'année précédente. Donc on voit qu'on est sur des courses de fond, et on va être sur plusieurs tranches.
Est-ce qu'on a aussi, en parallèle, sur votre site web, un peu d'historique de ces bâtiments?
Oui, très très souvent, je vous invite d'ailleurs, pardonnez-moi, à aller sur le site fondation-patrimoine.org, parce que non seulement vous pouvez aider et accompagner les projets en cours, mais aussi vous pouvez avoir pas mal d'informations sur chacun des projets, avec bien sûr des éléments photographiques, des éléments d'histoire, et voir des liens sur des sites, des références. Donc effectivement, on a à chaque fois, j'ai presque envie de vous dire que c'est, je crois, Victor Hugo qui disait que le patrimoine, c'est notre histoire vivante, et on voit effectivement l'évolution de ce patrimoine au fil des ans, et on n'est pas dans quelque chose qui est figé.
Alors, un troisième bâtiment que vous allez épauler.
Alors, on a parlé du Nord, on a parlé
de l'Oise.
On a parlé de l'Oise. Pour vous parler du Pas-de-Calais, c'est la commune de Bihucourt, qui est au sud d'Arras, du côté de Bapaume, qui est lauréate avec son église Saint-Va. Alors, j'ai envie de vous dire, l'église et la commune ont été doublement martyrs, puisque la commune a été rasée en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, puisque là-bas les combats faisaient rage, hein, comme on sait, et donc évidemment tout ça a été reconstruit, et l'église notamment a été reconstruite à une cinquantaine de mètres de son emplacement initial sur la période 1926-1930, et 2022. Énorme tornade qui a frappé la commune. Donc, non seulement de nombreuses habitations ont été vraiment extrêmement lourdement touchées, mais l'église elle-même a été lourdement touchée, la toiture largement endommagée. Donc, finalement, on a connu une double peine pour cette commune, avec des habitants qui ont voulu se relever. L'église est un véritable symbole. Donc là, c'est un projet qui est autour de 1 200 000 euros. On a commencé à retravailler, à mettre hors d'eau, puisqu'en fait, il y a une partie qui a été prise en charge par l'assurance, et donc le maire de Bihucourt a voulu vraiment commencer cette rénovation, et puis qui va se poursuivre, je dirais, en 2027, avec l'idée de réouvrir le site à la fin 2027 ou début 2028.
Voilà, de grandes aventures à chaque fois pour la population aussi, bien sûr.
Et oui, parce que c'est à chaque fois très emblématique pour la population, surtout sur une commune qui a souffert, hein. On va dire que là, la réouverture de l'église, c'est vraiment un symbole où on est passé au-dessus de cette tornade, et le village est reparti, c'est cicatrisé et repart vers une nouvelle aventure.
Ça leur fait du bien aux gens.
Et effectivement, et on voit que le patrimoine, c'est quelque chose qui est très fédérateur, hein, qui touche tout le monde. On a tous un souvenir de patrimoine, le souvenir du moulin de son village, le souvenir de son église. À chaque fois, ça jalonne, et puis ça raconte notre histoire. C'est à la fois, quelque part, un jalon qui nous rappelle soit les beaux moments de l'histoire, ou parfois des erreurs qu'il ne faut plus commettre. Et le patrimoine, c'est aussi parfois les leçons de l'histoire.
Voilà, puis aussi une façon de transmettre cette histoire à des enfants. Voilà, il y a une continuité, forcément.
Absolument. D'où l'intérêt qu'on a à la Fondation du patrimoine pour l'ouverture des... Vous posiez la question tout à l'heure, l'ouverture des sites au public. Parce qu'effectivement, dans les missions de la Fondation, c'est bien sûr d'aider, de lever des fonds, d'accompagner les porteurs de projets, mais aussi, c'est aussi de faire découvrir le patrimoine. Et ça va être une grande nouveauté qu'on lance à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est le Pass patrimoine qui est porté par la Fondation du patrimoine, avec des partenaires comme Demeure historique de France, notamment, pour pour permettre sur un abonnement modique à des personnes, à des familles d'aller visiter des centaines de sites en France grâce à leur passe patrimoine sans payer l'entrée. Et ça peut être aussi bien le château de Versailles et le château de Chantilly qu'un musée rural ou un musée d'une petite commune qu'il faut, ou un château qu'il faut découvrir à l'occasion de vacances. Donc ça, c'est pour nous, ça nous tient beaucoup à cœur. C'est un petit peu l'inspiration du National Trust en Angleterre, mais qui lui possède ces sites où effectivement énormément de personnes en Angleterre sont abonnées, adhérentes, parce qu'il y a cet amour partagé du patrimoine. Et donc, quelque part, on essaye avec ce passe patrimoine qui est largement plébiscité, porté, appuyé aussi par les pouvoirs publics hein, qui sont enthousiastes à cette idée, et ben d'offrir le patrimoine au plus grand nombre d'entre nous.
Voilà, on va continuer la visite des départements de notre région Hauts-de-France, si vous le voulez bien.
Eh bien, écoutez, avec plaisir. Alors, on a un très, très beau site aussi. Alors, puisqu'on parlait de la Première Guerre mondiale, nous allons aller dans l'Aisne maintenant et nous allons aller au château des Chesnais à Chevreny, dans l'Aisne. Alors, lui aussi, c'est un château martyr puisqu'il a été détruit pendant la Première Guerre mondiale en 1917, dans le fameux épisode du Chemin des Dames. Et donc, il a été reconstruit juste après-guerre, en 1924, 1927, hein, sur c'est cette première reconstruction. Alors, c'est un château qui est tout à fait étonnant parce qu'il mixe, en fait, différents styles architecturaux, bien sûr de l'art déco, ce qu'on appelle l'art et craft anglais, néo-gothique. Donc, quelque part, là, on a vraiment un petit bijou architectural. On a là des propriétaires privés. Et on a un péril, notamment avec la couverture, maçonnerie, quatre escaliers extérieurs qui sont aussi en mauvais état. Et donc, il y a un premier chantier qui est un petit peu moins de 400 000 euros, qui va faire l'objet d'une aide bienvenue, puisque les travaux devraient commencer, je dirais, l'année, fin d'année ou l'année prochaine. Voilà.
Cette année, on est un peu sur la présentation aussi du patrimoine photographique.
Tout à fait.
Est-ce que tous ces bâtiments, il y a des photos avant, pendant, après qu'on pourra restituer au public?
Alors, on en est assez friand. Très souvent, on a la chance d'en avoir. Là, j'étais ce matin avec monsieur le maire de Bihucourt et il me disait effectivement qu'il y a des photos de la commune, et même avant la reconstruction de l'église, avant les combats de la guerre 1914-18, on a certaines photos de l'église, parce que le clocher avait aussi brûlé dans les années 70, il n'avait pas été remplacé à l'identique, et là, à l'occasion de la rénovation, on remettra l'identique. Donc effectivement, c'est tout à fait précieux. Et si on a l'occasion d'en avoir, et souvent quand on a des porteurs de projets, je pense au château d'Esquelbecq aussi dans le nord qu'on a aidé, bien souvent il y a une collection photographique et quand on va venir les épauler, quand il y a une animation par exemple, on va faire la collecte de dons, eh bien souvent le fait d'avoir des photos, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors on nous a pas présenté de collection de photos à accompagner pendant cette année, mais en même temps l'année n'est pas finie, hein, l'année de la photographie, donc on est tout à fait à l'écoute de ça également.
Alors, encore peut-être un exemple de travaux qui...
Alors, on est allé dans l'Aisne, on est allé dans le Pas-de-Calais, dans le Nord et dans l'Oise. Il nous reste la Somme. Voilà. Oui. Alors, la Somme, c'est aussi une église. Hein, donc, c'est l'église de Saint-Médard qui est à Domard-en-Ponthieu. Alors, l'église, elle a été construite au début 12e, et là aussi, on a une édification d'une tour au 17e siècle de 28 mètres de haut. On a une voûte néo-gothique avec plusieurs éléments mobiliers qui sont protégés au titre des monuments historiques, notamment un panneau de bois qui représente Saint-Éloi. Donc là, on a eu un problème aussi, comme souvent dans ces églises de villages, de bourgs, les charpentes qui étaient en très mauvais état. Donc, un arrêté de péril en 2024 qui empêche finalement l'utilisation de l'église, soit à des fins, je dirais, cultuelles ou à des fins culturelles. Et donc là ce dossier, celui qui a été, je dirais, sélectionné cette année pour la Somme.
Alors, comment vous organisez une fois que les bâtiments ont été restaurés et qu'on peut les visiter? Je sais qu'il y a des accès qui sont difficiles parfois à certains bâtiments et le public ne peut pas forcément y entrer avec les normes actuelles. Il y a une certaine protection du public, ce qui est normal, mais en même temps, ça prive certains bâtiments de la capacité d'accueillir.
Alors, ça, c'est vraiment la responsabilité de chaque porteur de projet. Comme je disais, ça peut être quand c'est une collectivité, souvent elle peut être mieux armée, association, personne privée. Et donc, effectivement, au moment d'ouverture au public, il y aura passage de commission de sécurité. Alors, c'est très vrai, très, très cadré avec les collectivités locales. On le voit sur les églises. Si elles sont fermées en arrêté de péril, avant la réouverture, bien évidemment, la commission va se présenter et va autoriser en fonction du respect d'un certain nombre de critères. Alors bien sûr la rénovation, mais parfois, vous l'avez souligné, il peut aussi y avoir des critères, puisque les normes avançant, on va dire, vous avez restauré, mais comment fonctionne la sortie de secours pour l'incendie, etc. Ça, c'est vraiment le job des porteurs de projets de s'assurer de ça et effectivement pour pouvoir garantir l'accessibilité.
Je pense à ça parce que je connais par exemple le centre culturel Norrois, autrefois à Arras, et qui est un peu bloqué par des sorties de secours qu'il n'arrive pas à mettre en place dans la mesure où sur les côtés où on pouvait passer, les autres demeures se sont greffées sur les pignons, on va dire, et il n'y a plus de place pour faire passer.
Il n'y a plus la place alors.
Voilà.
On peut avoir aussi finalement, comme on dit, parfois des injonctions paradoxales entre certaines normes. Et parfois, effectivement, l'équation peut être complexe. Comme une autre équation, d'ailleurs, conjuguer finalement la restauration de bâtiments quand ils ont un usage tertiaire d'accueil du public avec l'équation de la transition écologique. C'est pour ça qu'on travaille aussi, nous, sur un chantier depuis quelque temps qui est l'éco-restauration. Comment on utilise des matériaux, on va dire, naturels, mais qui ont des vertus, on va dire, d'isolation, par exemple, pour pouvoir restaurer, respecter à la fois, finalement, rendre le bâtiment dans l'état où il était, puisque c'est le principe de la restauration. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, non pas éco-rénovation, mais éco-restauration, puisqu'on restaure, mais on intègre des bâtiments, des matériaux, on va dire, qui permettent de gagner en qualité environnementale.
Donc, dans ces vieux bâtiments, il n'y a pas trop la problématique qu'on a actuellement avec, par exemple, l'Université de Lille, où il y a des bâtiments qui sont encore vraiment amiantés, qu'il faut désamianter. Ces vieux bâtiments n'avaient pas utilisé l'amiante ?
Alors, non, c'est pas ce qu'on rencontre souvent. J'oserais dire, j'ai pas de cas à vous donner en tête, mais on pourrait très bien avoir le cas d'un bâtiment qui soit très ancien, qui date du 19e, par exemple, et dans lequel il y a eu des usages qui fait que peut-être un porteur de projet, à un moment donné, a mis des plaques d'amiante. Donc on pourra avoir, une problématique très, très occasionnelle d'amiantage. J'en ai pas en tête, parce que on va être vraiment plutôt sur le structurel, et en particulier sur la mission Berne et le loto du patrimoine. Alors effectivement, quand on a des bâtiments industriels, si on ça fait aussi partie du patrimoine, et Dieu sait si dans la région on a un patrimoine industriel minier, bien sûr, puisque par exemple on accompagne le centre historique minier, une collecte en cours pour aider à le rénover. Mais effectivement, dans ces cas-là, on peut avoir une équation liée à l'amiante s'il y a eu en fait de l'amiante à un moment donné. Voilà. Mais ça, c'est toute la vie finalement du patrimoine et peut-être des matériaux qui sont plébiscités à un moment, à un instant T, mais qui peut-être dont on verra qu'ils n'ont pas que des vertus quelques années ou quelques décennies plus tard.
Madame Soledes, on voit bien la diversité. Chaque lieu est un cas particulier à traiter avec des spécialistes qui vont diagnostiquer, pronostiquer aussi.
Tout à fait. C'est pour ça que quand un projet se lance, évidemment, il y a un travail qui est fait avec la DRAC, avec les architectes des bâtiments de France. Et bien souvent, le porteur de projet va travailler, va solliciter aussi... on va travailler sur une ingénierie financière dans laquelle la Fondation du patrimoine va amener sa boîte à outils. Mais on va trouver très souvent une aide de la région, une aide d'un département, de l'État au travers de la DRAC, qui vont rendre possible finalement le fait de faire revivre et de préserver pour longtemps le patrimoine.
Voilà, bien je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qui était entrepris et de ce qui a déjà été réalisé. Si vous aviez un vœu pour les années prochaines ?
Eh ben, j'ai un double vœu. Venez profiter des journées du patrimoine pour aller visiter au maximum les monuments. Et vous pouvez nous retrouver à plusieurs endroits, à la citadelle de Lille, à la coupole d'Elfaux, pour citer, au château de Senlis, puisque là on remettra le chèque du patrimoine. Donc ça, c'est le premier vœu. Venez nombreux, parce que venez découvrir le patrimoine. Le deuxième vœu, aidez-nous. Vous pouvez aller sur le site www.fondation-patrimoine.org. On a besoin d'adhérents, on a besoin de gens qui soutiennent l'action de nos bénévoles, qui ne comptent pas leur temps pour accompagner les porteurs de projets, lever des fonds, et retrouvez-nous aussi avant les journées du patrimoine à la braderie de Lille, puisqu'on aura un stand au village des associations.
Merci Stéphane Ledez.
Merci beaucoup. À bientôt René Lavergne.